C-K-U-T.
There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing
on.
There is this thing going on. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Pourquoi on marche? Journée internationale contre la brutalité policière 2021. Pourquoi on marche? Nous prenons la rue aujourd'hui pour la manifestation de la 25e journée annuelle contre la brutalité policière organisée par le collectif opposé à la brutalité policière. Nous marchons aujourd'hui dans Parc Extension, un quartier ouvrier, pauvre et à majorité migrante, parce que ce quartier est menacé par la gentrification, comme plusieurs autres à travers le pays. Le nouveau quartier technologique à la mode du Mile X et l'arrivée d'un nouveau campus de l'Université de Montréal sont responsables de la gentrification de Parc X, ce qui vient avec énumération, les évictions de nombreux locataires qui ne pourront pas se permettre de se reloger dans le quartier, l'explosion des prix et les boutiques huppées, une augmentation de la surveillance policière. Pour protéger les nouveaux et nouvelles résidents-résidentes plus riches et pour mettre de l'ordre dans le quartier, pour effacer les anciens et anciennes résidents-résidentes. Comme quartier pauvre et avec une large population racisée, le harcèlement policier fait partie de la vie quotidienne de Parc Extension. Même si cela fait des années que la police promet de régler le problème du profilage racial à Montréal, rien de concret n'a été fait et la répression continue. Les abus policiers graves sont toujours monnaie courante. Dans Parc X, ce qui est arrivé à Mamadi Camara récemment en est un bon exemple. L'abolition de la police. Le thème de la manifestation de cette année est l'abolition de la police. Depuis sa création, il y a quelques centaines d'années, la police abuse de son pouvoir et maltraite la population. Il y a eu tellement de personnes battues, abusées, tuées par la police, des gens emprisonnés, des familles brisées. Quand les comportements des policiers sont dénoncés par la population, on y promet toujours des réformes, mais rien ne change jamais, ou trop peu. Les personnes autochtones et noires continuent d'être tuées par des policiers. Les personnes avec des problèmes de santé mentale sont battues ou tuées. Les personnes racisées se font contrôler quand elles conduisent une voiture. Les travailleuses du sexe sont emprisonnées. La liste est longue. La police fait beaucoup trop de tort à la population pour que nous continuions à tolérer de vivre dans la peur sous son emprise. Abolissons-la! Communiqué du collectif opposé à la brutalité policière. Vous pouvez retrouver ce communiqué à www.cobp.resist.ca. La marche a lieu en ce moment, donc à partir de 17h. Donc, manifestation du 15 mars, abolissons la police. 15 mars 2021, Metro Parc à partir de 17h, organisé par le collectif opposé à la brutalité policière. Bonjour, bienvenue sur CKUT 90.3 FM à En profondeur. Aujourd'hui, nous allons écouter le deuxième épisode du Verger au complet à l'occasion du 15 mars, manifestation internationale contre la brutalité policière. Ça se lit comme suit. Salut. La convergence des luttes anticapitalistes, LAC, publie aujourd'hui le deuxième épisode d'une série de podcasts nommée Le Verger au complet. Le Verger au complet vise la diffusion d'informations relatives à l'abolition de la police et des prisons, mais proposera aussi des épisodes portant sur des thématiques plus précises, telles que la justice transformatrice, les prisons de migrants et migrantes, la criminalisation de la dissidence et plusieurs autres. Dans ce deuxième épisode, on vous partage une entrevue avec une personne impliquée avec le collectif opposé à la brutalité policière, COBP, collectif notamment à l'origine de la manifestation annuelle du 15 mars qui arrive à grands pas, ayant cette année comme thème l'abolition de la police. Depuis 25 ans cette année, le COBP offre un soutien aux victimes de brutalité policière, informe sur les droits des personnes face à la police et dénonce toutes les formes de violence policière. Vous pouvez retrouver le Verger au complet sur le site de la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes, à www.clac.net.
La police et les prisons sont des institutions violentes et racistes, issues d'un héritage colonial qui servent qu'à reproduire les injustices du système capitaliste. Tous les jours, même quand c'est la soi-disant paix sociale, la police violente, harcèle et incarcère les personnes les plus démunies et les plus opprimées. quand elle se soulève, c'est encore la police et la prison. Le problème, c'est pas seulement les dérapes violentes de la police, mais l'institution policière elle-même qui constitue une forme de violence, au même titre que les tribunaux, les lois et les prisons. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pomme pourrie quand l'institution entière existe pour réprimer et opprimer? Le Verger au complet, c'est une série de podcasts sous forme d'entrevues touchant à différents thèmes liés à la police, aux prisons et à la justice, mise sur pied par la CLAQ, la Convergence des luttes anticapitalistes, un groupe basé à Chautauqua, Montréal, en terre autochtone non cédée. Nous vous proposons une analyse critique qui s'oppose à la vision libérale, celle qui préfère cibler les pommes pourries dans le panier plutôt que de s'attaquer au système d'oppression. Ne leur laissons pas cette chance. On ne réforme pas un système aux fondations pourries, on le démolit. Attaquons-nous au verger au complet.
L'idée d'abolir la police n'est pas nouvelle, mais depuis l'assassinat de George Floyd et de Breonna Taylor l'année dernière aux États-Unis, et avec chaque nouvelle instance de violence aux mains de la police, son abolition fait de plus en plus partie des débats publics sur les abus policiers. De plus en plus de gens se rendent compte que les tentatives de réformer la police ne donnent pas de résultats concrets, et que la violence et le harcèlement ne cesseront qu'avec la disparition complète de la police. Parce que la grogne contre le système policier ne cesse d'augmenter avec chaque victime, plusieurs mouvements opposés à ce système sont nés. Certains d'entre eux passent par le définancement, alors que d'autres appellent carrément à l'abolition. À Montréal, la 25e manifestation annuelle contre la brutalité policière de cette année a pour thème l'abolition de la police. Pour cet épisode du Verger au complet, nous vous présentons une entrevue avec un membre de COBP, le collectif opposé à la brutalité policière, le groupe qui organise cette manifestation chaque année. Peux-tu nous dire c'est quoi COBP, le collectif opposé à la brutalité policière?
Oui, le collectif opposé à la brutalité policière est né en 1997 suite à un échauffourée, on dirait, une bagarre entre des militants antifascistes et des militants néo-nazis. Et la police s'en est mêlée et s'en suivit un gros cas de brutalité policière qui a donné naissance à un collectif séparé du chapitre de Antiraciste Action de l'époque, qui est devenu le collectif opposé à la brutalité policière. Généralement, on fait du suivi, de l'accompagnement et on dénonce les cas de brutalité policière localement, généralement, qu'on fait quand nous, on s'en mêle directement. Et chaque année, on organise la manif du 15 mars, qui est la Journée internationale contre la brutalité policière. Et sur notre site Internet, on poste beaucoup des reportages, des nouvelles, des updates sur les situations entre les populations et les polices un peu partout sur la Terre.
En général, est-ce que tu crois que la police fait un bon travail, c'est-à-dire arrêter les méchants et protéger la population?
Oui, comme je disais tantôt, il faudrait, dans le fond, définir ce qui est un méchant et qui est la population protégée, dans le fond. Mais si on s'en fie à votre premier épisode, la population, c'est les gens riches, les membres du gouvernement et les gens qui font rouler le système capitaliste. Ils sont généralement très bien protégés. Et les méchants, c'est pas mal nous autres. Dans le fond, dans tout ce qui est comme sortir de notre docilité pour remettre en question quoi que ce soit. Là, évidemment, il faudrait aussi définir la docilité, là, parce que, tu sais, on s'entend que la police pourrait être arrêtée pour cracher sur la rue, mais là, ça, c'est notre, tu sais, ça devient une longue histoire, mais on dirait, pour une réponse courte, oui, ils font leur job, mais, tu sais, ça dépend beaucoup de la définition que les gens ont de population et de méchant.
Crois-tu que les abus policiers sont des actes isolés faits par quelques mauvais policiers, qu'on appelle souvent les pommes pourries, et que si la police se débarrasse d'eux, ça pourrait régler le problème?
Je dirais que non. La réponse courte, c'est non. C'est pas en se débarrassant de quelques policiers qui réglaient le problème. Il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on entend par pomme pourrie. C'est qui est souvent une expression qui est utilisée par les médias de masse, le gouvernement, la police elle-même, pour dire qu'il y a des policiers qui font mal leur job. Mais en fait, ils ont des boucs émissaires pour prouver la chose, comme on l'a vu dernièrement avec l'ex-agent du SPVM, Stéphanie Trudeau, fameuse agente 728, qui qu'on a probablement presque oublié avant qu'elle nous rappelle cette semaine qu'il n'avait pas fini de la passer au cash pour montrer qu'il y était des personnes qui pouvaient se débarrasser des dites pas pourries.
Les lois, supposément neutres, sont appliquées de manière à maintenir un ordre capitaliste établi. C'est par exemple, c'est interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts. Penses-tu que les policiers appliquent les lois de manière neutre? As-tu des exemples?
Fait qu'encore une fois, la réponse courte, c'est non, dans le sens que on entend souvent ici, en tout cas localement, la Ville de Montréal ou le gouvernement du Québec parler de la discrétion des policiers. On entendait dernièrement beaucoup la ministre de la Sécurité publique provinciale parler de la discrétion des policiers par rapport au couvre-feu, par rapport à la quantité d'infractions données par rapport au couvre-feu. Donc, la discrétion des policiers, par définition, c'est pas neutre. Et aussi, c'est souvent... Puis en plus, c'est dépendant de qu'est-ce qu'on reproche aux policiers, ils ont tout le temps de la discrétion ou ils obéissent aux ordres. Dans le fond, on ne sait jamais quelle est la neutralité. Et aussi, la loi en tant que telle n'est pas neutre. Fait que tu ne peux pas vraiment l'appliquer de manière neutre.
Des groupes communautaires ont sorti les constats d'infraction émis aux personnes qui donnaient l'adresse de ressources communautaires lors d'arrestation et rapportent près de 4000 constats d'infraction aux personnes en situation d'itinérance, avec près du quart émis pour des infractions aux règlements municipaux. Les constats les plus fréquents sont de boire dans des lieux publics, ce qui est difficile à éviter quand la caractéristique première des personnes en situation d'itinérance est de ne pas avoir d'endroit privé. Entre la loi qui n'est pas neutre et les policiers biaisés, c'est plutôt dur à dire. Est-ce que la police est la même partout à Montréal ou son comportement change selon les quartiers? Est-ce que la police utilise des données criminologiques pour cibler certains quartiers et certains milieux?
Ils sont beaucoup plus présents dans certains quartiers, souvent les quartiers racisés, les quartiers qui ont plus d'inégalités sociales, les quartiers les plus pauvres. Fait qu'il y a beaucoup de... T'sais, clairement, la police n'est pas les mêmes dans tous les quartiers. Quelles sont les données criminologiques? Qu'est-ce que ça veut dire, les données criminologiques? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus de trafic de drogue? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de guns, alors qu'il n'y a pas beaucoup de guns tant que ça au Canada? Est-ce que... T'sais, qui sont les criminels? Est-ce que c'est parce qu'il y a plein de gens de couleur qui conduisent des voitures? T'sais, comme, est-ce qu'on traverse la rue sous la lumière rouge? T'sais, comme, quels sont... T'sais... Quelle est la criminalité? Pour moi, c'est aussi, ça peut être une autre discussion, mais c'est aussi relié à la gentrification. Comment les gens sont policés dans certains quartiers de Montréal ou ailleurs au Québec, en fait.
Comment les conditions de remise en liberté affectent les personnes particulièrement visées par les opérations policières?
Ça dépend vraiment beaucoup de qui est visé par les opérations. Il y a quand même des problèmes par rapport à comme... trouver un emploi, se déplacer, voir, tu sais, dépendant des conditions, ils peuvent peut-être pas voir leurs amis, leur famille. Tu peux souvent pas sortir d'une certaine juridiction, genre la ville ou certains quartiers. Des fois, si on parle de l'oppression des travailleuses du sexe, par exemple, souvent on les empêche d'être dans les quartiers où est-ce qu'elles travaillent. Par exemple, si on parle des gens qui n'ont pas le statut de citoyen canadien, ben ça peut sérieusement empiéter leur démarche pour devenir citoyen canadien. Fait qu'il y a plein de dépendants des gens, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Tu sais, ça les affecte de manière très différente, genre.
Les personnes les plus vulnérables dans notre société sont les plus désavantagées par le système. Puis ces personnes-là ne font pas appel aux services de la police quand elles subissent des abus. Quand on est pauvre, quand on en arrache, quand on vit dans la rue, on sait que la police nous a déjà à l'œil. Crainte de déportation pour les personnes qui n'ont pas la citoyenneté canadienne, sous dénonciation des agressions sexuelles, sous dénonciation des attaques racistes. Beaucoup de gens ne dénoncent pas par peur d'être jugés par les policiers ou même de s'attirer les ennuis. On sait que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et les personnes racisées rapportent peu les crimes commis contre elles et eux. Est-ce que tu penses que le traitement policier a quelque chose à voir avec ça?
Oui. Encore une fois, réponse courte. Il y a de plus en plus d'exemples, de plus en plus de statistiques. Mais je pense que dernièrement, il y avait un article qui parlait de fait que la majorité des personnes noires tuées par le SPVM dans les dernières années étaient en situation de crise de santé mentale. On se rappelle des cas de Pierre Coriolan et de Alain Magloire qui ont été médiatisés, ou est-ce que, surtout dans le cas de Pierre Coriolan, dont l'enquête de déontologie vient de se terminer, les images sont sorties, fait qu'on a tous pu voir... comment la police agit, puis c'est pas, tu sais, le cas de Pierre Coriolan, c'est pas un cas isolé, c'est juste un cas qui a été médiatisé. Et dans le fond, les gens en détresse de santé mentale vont... Tu sais, pour avoir, dans ma vie, été témoin d'opérations policières sur les gens qui ont de santé mentale, c'est... Tu sais, si tu veux faire peur à quelqu'un, hein, tu sais, qui est en crise de santé mentale, appeler la police, c'est la meilleure façon de, comme... s'assurer que le problème va être pire, dans le fond, là. Puis clairement, les policiers n'ont aucune idée quoi faire dans ces affaires-là, genre. Puis ces gens-là vont être criminalisés d'une manière comme... qui fait aucun sens. Ça. C'est difficile d'expliquer comment qu'on criminalise quelqu'un en crise de santé mentale de la même façon qu'on criminalise quelqu'un qui fait une prise d'otage avec genre qui est lourdement armé, là, finalement. Fait que, ouais, c'est normal qu'ils appellent pas la police parce que qu'est-ce qu'ils voient dans les médias puis qu'est-ce qu'ils subissent, clairement, leur dit comme appelle pas la police, sinon tu vas avoir un straight jacket puis on va, tu sais, on va cramer le cerveau dans un hôpital psychiatrique. Tu sais, c'est pas mal, ça, tu sais.
En cas d'abus policier, est-ce que les mécanismes pour rendre les policiers redevables de leurs actes fonctionnent? Qu'est-ce que la Fraternité des policiers de Montréal?
Ben, si on parle de rendre les policiers redevables à la population qui va au bureau de déontologie ou à la cour, ça fonctionne pas pour eux. Presque tous les cas de déontologie sont en faveur des policiers. Comme presque, c'est très rare. On pourrait facilement, si vous faites une recherche là-dessus, je vous dirigeais vers plusieurs écrits de Alex Popovic. C'est très rare que la déontologie blâme un policier. Puis même quand les choses vont à la cour, ce matin, j'ai regardé une vidéo de, je ne me rappelle plus quel média, hein, d'un couple qui avait poursuivi le SPVM pour profilage racial. les poursuites ont été abandonnées mystérieusement, la personne va faire une deuxième poursuite, ça c'est quelque chose qui arrive comme presque tout le temps. Pour la deuxième partie de la question, la Fraternité des policiers et policiers de Montréal est un syndicat, comme de sa manière la plus... straight de le dire, dans le fond, c'est le syndicat qui défend les policières et policiers de Montréal pour la ville de Montréal, pour le Québec. Il y en a une au Canada, il y en a une d'Amérique du Nord, il y en a une de chaque État américain. Des fois, ça change un peu de nom. La façon qu'il marche, l'impression que ça donne, en fait, c'est que c'est un peu... Tu sais, ça s'apparente aux gangs de rue ou même aux crimes organisés qui ont beaucoup de pouvoir. Dans le fond, la Fraternité des policiers est un syndicat qui a quand même beaucoup de pouvoir, qui font des sorties, surtout quand les politiciens essayent d'amadouer la population par rapport à leur frustration, par rapport à la police, c'est souvent la fraternité qui... tout d'un coup faire une sortie pour défendre ses policiers. Genre, on peut avoir l'exemple de l'affaire Camara encore une fois, qui s'est passé il y a environ un mois maintenant, où est-ce que la Fraternité des policiers est tout de suite sortie pour défendre les actions des policiers contre M. Camara. Ça, c'était même avant, je pense, que les accusations tombent, mais même après que les accusations soient tombées contre M. Camara, il y avait quand même une défense des actions des policiers. Puis ils n'ont aussi pas de moyens... de les rendre relevables, eux, parce que c'est pas... La Fraternité des policiers ne sont pas le corps policier. C'est comme leur syndicat, en tout cas. C'est comme une espèce d'organisation parapolicière. C'est un peu weird. Et c'est comme détail ici, tu sais, je sais pas si c'est le même cas partout dans les provinces. Ben, je pense qu'en Ontario aussi, mais comme les membres du BEI, de la Sûreté du Québec, blablabla, tu sais, les policiers qui enquêtent sur les policiers sont aussi membres de la Fraternité des policiers. Fait que c'est un peu comme... Ouais. C'est comme un gros bouclier, la Fraternité des policiers. Ouais.
Le système de justice, qui a entre autres éliminé le règlement P6, ne pourrait-il pas empêcher les abus des policiers?
Ben, il faut savoir que le règlement P6 est tombé à cause de l'acharnement des militants qui ont été dans le système judiciaire pour pousser, ça a pris plusieurs années. C'est-à-dire que, oui, il a été éliminé après, comme, poursuite après poursuite, et comme, etc., etc. Fait que, tu sais, je dirais plus que les militants ont éliminé le règlement, que la justice elle-même, même si c'est comme un, sur papier, un décision d'un juge. Je dirais que c'est un des outils qu'on peut utiliser, mais qu'il faut toujours... Tu sais, il faut comprendre que le système de justice et la police ont un peu main dans la main, tu sais. C'est difficile à expliquer de manière claire, je trouve, mais tu sais, je pense que quand tu vas au palais de justice, tu comprends ces affaires-là assez rapidement, tu sais, les policiers... Mais il y a des policiers qui travaillent au palais de justice, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, oui. Il y a une division de SPVM qui travaille au palais de justice, c'est des gens qui se voient tous les jours. Tu sais, il faut vraiment un travail acharné des militants, militantes par rapport à la légalité, avoir, tu sais, des avocats qui sont dans le bord. Heureusement pour nous, on en a. Mais c'est vraiment comme... Je ne dirais pas que c'est le système de justice en tant que tel, mais plus l'acharnement de nous qui pousse le système à reconnaître que on devrait avoir un rapport de force par rapport à la police. Puis souvent, c'est sûrement une interprétation de loi claire. Puis à la fin aussi, il y a il va y avoir une nouvelle stratégie de la police qui vont choisir une autre loi. T'sais, le règlement P6 était une loi. Le règlement 500.1 du Code de la route était une loi qui était utilisée régulièrement avant aussi, pour arrêter les gens dans les manifestations parce qu'ils étaient sur la rue. Fait que maintenant, on utilise, tu sais, comme, on va sûrement utiliser d'autres lois, mais présentement, c'est le couvre-feu, en fait. Le couvre-feu et le confinement, là. Maintenant, ça sort beaucoup, là. Il y a 1000 constats d'infraction du couvre-feu qui sont donnés au Québec chaque semaine. C'est beaucoup.
Finalement, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un bon système policier?
Un bon système policier? Je dirais que je vais faire l'avocat du diable de moi-même. OK? On va dire... Il y a des exemples. Au Mexique, il y a des villages qui ont décidé... Là, je parle pas des apatistes, là, je parle de d'autres villages, mais c'est vrai qu'ils sont dans la même région. En tout cas, mais il y a des villages qui ont décidé de s'armer pour avoir un rapport de force contre les cartels qui contrôlaient complètement leur religion, leur village et leur ville. Puis ils se sont fait des espèces de milices locales qui font une certaine job policière, mais en fait, ils s'occupent pas des, ils s'occupent pas de ce qu'on appelle les petits crimes sociaux ou whatever. Ils s'occupent strictement de s'arranger que le cartel arrête de contrôler tout ce qui se passe. Tu sais, il faudrait quasiment... ce serait quasiment un travail long, ardu, là, pour définir qu'est-ce que pourrait être une bonne police. Tu sais, je le vois pas. Une bonne police. Mais tu sais, c'est vraiment... Tu sais, ce serait un long débat politique, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a des personnes très méchantes puis que la seule façon de dealer avec eux, c'est de les arrêter, de les mettre dans une prison. Puis là, ça devient une longue discussion de... Si, tu sais, en tout cas, il y a plein, tu sais, je pourrais faire des exemples sur comme les 200 dernières années de police moderne. je vois pas comment qu'il y ait une bonne police. Vraiment, tu sais. Si je parle, tu sais, l'exemple que je trouve qui est un peu drôle, pour être un peu plus positif, c'est il y a quelques années, je pense que c'était en 2012, peut-être plus tard, plus 2014, c'est pendant la montée du mouvement Black Lives Matter, puis il y avait beaucoup d'émeutes raciales aux États-Unis, dans le fond, et... Le maire de New York avait blâmé un peu la police pour avoir une mauvaise relation avec sa population. Fait que là, la police a décidé d'arrêter de donner des tickets pour se fâcher contre le maire de New York. Puis en fait, qu'est-ce que ça a donné? Un, ça a donné une baisse du taux de crime à New York dramatique, parce qu'en fait, les gens étaient criminalisés pour traverser la rue, finalement. Puis aussi, ça leur a donné drôlement, la ville de New York a dû avouer qu'il y avait un quota de tickets à ses policiers et leur dire qu'il y avait un temps restreint pour trouver les 12 millions de dollars qui manquaient pour qu'on fasse payer leurs vacances. Fait que finalement, tu sais, c'est que... Qu'est-ce que la bonne police, en réalité? Genre, la police ne sert que servir et protéger leur maître. Et si on change complètement ce système-là, on n'aurait pas besoin de la police, tu sais. Comme la bonne police, c'est une police qui fait la job qu'elle fait maintenant, tu sais. Fait que la pas bonne police, elle n'existe pas. Genre, ou la bonne police, selon notre côté, c'est une police qui n'existe pas, dans le fond.
Si ça ne vaut pas la peine d'essayer de réformer la police, ça serait mieux de l'abolir?
Ouais, ben la police a été réformée comme littéralement des centaines de fois, là. La police est réformée tout le temps. Il y a plein de réformes que t'entends jamais parler, là, mais la police est tout le temps réformée, là. Et ça change rien. Absolument rien, là. Ouais. En fait, la réforme policière, c'est des réformes administratives plus que d'autres choses, là. Même quand ils sont publiquement dits comme... C'est tout le temps juste des réformes administratives, en réalité.
Mm-hmm. Si des jeunes font trop de bruit, on appelle la police. Si une personne a une crise de santé mentale, on appelle la police. Le fait qu'il y ait une classe de personnes en charge de régler tous nos problèmes affaiblit et déresponsabilise nos communautés. Cela nous empêche de travailler collectivement pour régler nos problèmes de façon autonome en apprenant à connaître et à comprendre nos voisins et voisines. There's a world that I see when I close my eyes, full of happiness and love and peaceful vibes. No stress, no work that we don't decide to do collectively to build community and thrive. Drinking water out of streams so clean they shine. Sleeping in with our lovers, not pressed for time. No jails, no cops, no wars, no crime. Where everything is everyone's and nothing's mine. And everything is fine, everything is shared. Everyone is loved and everybody cares for the earth and honors all those who live here. Eating fresh food, breathing fresh air. To the stars we stare, storytelling by the fire. Laughter everywhere, joy in every smile. Feeling so free, feeling so inspired. Just close your eyes and visualize the world your heart desires. I can see it. Le 15 mars 2021, c'est la 25e manifestation annuelle contre la brutalité policière. Peux-tu nous parler de la manifestation?
Oui! On invite tout le monde à venir au Métroparc, en fait, au Parc de la Gare Jean-Talon, comme ça s'appelle officiellement, à côté du métro. C'est la 25e année de suite, qui est quand même... un milestone, comme on dit en anglais. Ça va être une manifestation... On peut jamais vraiment prédire qu'est-ce qui se passe un 15 mars. On invite quand même les gens à braver la température, quelle qu'elle soit, de venir montrer, démontrer, exprimer leur frustration, leur désaccord, que ça soit pour, tu sais, l'abolition ou le définancement. On invite tout le monde à venir... Plus on est et plus on est sécure, je pense. Je dirais, après 25 ans, hein, on a toujours le même problème. C'est-à-dire qu'on a une police oppressive parce que c'est sa nature et une population qui la subit. Et nous nous sommes dotés d'une journée internationale pour montrer notre rage. Cette année, j'imagine, ben, comme on l'a dit, le thème, c'est l'abolition de la police. Moi, je ferai un focus spécial sur la nomination de Yann Lafrenière comme ministre des Affaires autochtones, la nomination d'un ministre blanc sur la lutte contre le profilage racial, etc., etc., et les 1000 tickets par semaine données pour le confinement qui va faire que je sais pas combien d'argent le gouvernement du Québec a supposément perdu, mais il va les regagner. Dans le fond, rendu-le. Voilà.
À Montréal, on est toujours loin de l'abolition de la police. Et même si beaucoup de gens ont fait pression pour que la Ville de Montréal définance en partie la police, le budget du SPVM a augmenté cette année, sous prétexte qu'on ne peut pas définancer la police en temps de pandémie. Le débat sur l'abolition de la police doit faire son chemin ici et ailleurs. Parlez-en autour de vous. Pour plus d'informations à propos de COBP, vous pouvez visiter le site internet du groupe au www.cobp.resist.ca. En attendant le prochain épisode du Verger au complet, on se voit dans la rue!
Moi, je trouve ça beau, le drapeau qui brûle au vent. Un amassis de cendres qui se répand sur les tombeaux des hostiles surveillants. Y a pas de quoi être fier d'être tombé sur la terre.
Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. En second lieu, nous allons écouter un extrait du disque Terre de Feu, qui accompagne le 7e numéro de la revue Jeff Clack. Jeff Clack fait entendre le feu qui couve, ceux qui travaillent de l'intérieur avant une éruption, ceux qui préparent les surgissements, colères accumulées, chants de révolte, autodafés girafidés, pollution insidieuse, douleurs enfouies et répercussions intimes. Des braises sur lesquelles souffler des cendres qui vibrent encore. Nous allons écouter l'extrait intitulé « Pour ne plus taire les jours où » Paroles à voix nue et ses résonances par Aude Rabillon. Je te raconte le jour où, pour ne plus taire les jours où, pour tenir haut la tête enfin, j'enregistre les traces dans tes silences, de nos silences qui restent dans nos corps de femmes, pour ne plus taire les jours où.
Depuis peu, j'essaye de me tenir droite et de regarder au loin. Mais globalement, je suis quand même plutôt recroquevillée où je vais avoir tendance à... Je vois des femmes, des fois, qui s'installent. Elles sont posées, les jambes pliées, les même dans le métro, je me rends compte des fois. Alors j'essaye, en fait, j'essaye de correspondre à moi-même et de... Mais je me rends compte que je suis quand même toujours les jambes fermées. Je tire toujours sur mes jupes si j'ai des jupes. Bon, j'en mets pas beaucoup, mais des... sur mes pulls, qu'on voit pas trop mes formes, qu'on voit pas trop mes cuisses. Qu'on... Alors que j'ai ce truc, j'ai de... En fait, on s'habille comme on veut, mon corps est à moi. Ou à les insulter si on me regarde ou je sais pas quoi. J'ai quand même ce truc de, ouais, bon, on va quand même pas trop se faire remarquer, on va se cacher, on va se rendre le plus petit possible. Quand tu rentres chez toi le soir et que t'es toute seule, moi j'ai un bœuf dans mon sac, je le mets sur ma tête comme si j'étais à moitié une sportive, ou alors je vais mettre ma capuche jusque là pour qu'on me voit pas trop, que personne ne croise mon regard en fait. Comme ça on voit pas trop mes cheveux. Parce que j'ai de longs cheveux noirs. Et des fois, ça peut... Dans le doute, on sait jamais. Les mains dans les poches, ne pas faire voir ce que t'as en dessous. Avoir des habits de rechange de temps en temps dans mon sac à dos. Je mets du rouge à lèvres depuis pas très longtemps. Depuis que je fréquente ma compagne. parce qu'en fait elle aime bien le rouge à lèvres et que du coup je me dis bon bah si je suis avec elle ça va, à deux on peut avoir du rouge à lèvres, mais je mettais pas de rouge à lèvres jusque là, j'avais peur que ça fasse trop vulgaire, que ça fasse aguicheuse, que... Mais c'est fou parce que je suis quand même un peu vénère sur plein de trucs et en même temps je m'auto-censure plein de trucs pour pas... par peur d'eux ou de peur d'eux. Je crois que je saurais même pas exactement par où commencer, mais je... Alors, il y a une histoire qui s'est produite avant, mais je me suis rendu compte que ça avait été un peu ambivalent, que j'avais eu des moments très actifs, très militants, où je suis vraiment énervée et j'ai fait mon mémoire sur des questions de femmes, de genre, etc. J'ai travaillé sur ces questions-là, je me suis énervée, j'allais à toutes les manifs. Et en même temps... il fallait, je suppose, dans une certaine mesure, que je... Mon objectif en tant que femme, c'était de trouver un compagnon, de me poser avec ce compagnon pour pouvoir rendre des comptes à la société, et de fonder une famille, d'être une femme douce, intelligente, mais pas trop, mais qui fait des choses, mais pas trop, qui soutient son mari, mais pas trop, enfin... Moi, depuis que je suis gamine, dans ma famille, il y avait toujours ces blagues de avec qui on va être marié, les jeux qu'on faisait quand on était petit, c'était autour du mariage. Pour nous, l'objectif, c'était de trouver un époux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'entre ça et en même temps mon côté un peu énervé et l'éducation que j'avais eue dans le cadre famille vraiment très proche, donc ma mère et mon beau-père, ça avait créé une espèce de dualité en moi que j'arrivais pas très bien à gérer dans mon rapport aux hommes que j'ai connus dans ma vie. Un coup, j'ai essayé de me caser parce qu'il fallait que je montre que j'étais capable. En fait, je suis une femme casable. Donc, je me suis casée pendant 5 ans avec un jeune homme très bien qui voulait se marier, faire des enfants. On a acheté une maison, un appart, etc. Et en fait, quand sa maman m'a dit « Ah, c'est dommage quand même, vous avez acheté un appart au 3e étage, sans ascenseur, pour la poussette, ça va être compliqué. » Je me suis dit, mais en fait, merde, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux pas d'enfant tout de suite. Je veux pas me marier. Je veux pas être rangée. Je veux pas aller déjeuner chez mes beaux-parents tous les dimanches midi. Enfin, c'est pas possible. Et en 2 jours, j'ai tout février et je suis partie. Moi, je vais bientôt avoir 34 ans. Je suis pas mariée. J'ai pas d'enfant. Et en plus, il s'avère que je viens de débuter une relation avec une femme. Donc, bon, alors ça, déjà, personne ne le sait, parce que je vais être complètement reniée. Alors, je suis en contact avec pas beaucoup de gens de ma famille, mais... Et je pense je me perds, je sais pas on, mais... Je me perds, moi, dans cette ambivalence entre vouloir satisfaire quand même et vouloir être validée par... Et en même temps, ce qui moi, me correspond et ce qui, moi, me va et quelles sont mes valeurs à moi. Et puis, on est dans une époque où c'est pas la même chose que les générations précédentes. Il se passe vraiment quelque chose en ce moment sur ces sujets-là. Et je... Pour une fois, j'ai pas envie de rester à la traîne sur ce sujet-là. J'ai l'impression que j'y ai ma place. J'ai l'impression que j'ai envie d'avoir ma place là-dedans. J'ai besoin, tout d'un coup, de dire des choses. Alors, c'est pas je les ai tues, puis maintenant que c'est la mode, j'ai envie d'en parler. C'est juste que enfin on a le droit d'en parler et enfin ça peut être partagé. Mais du coup, peut-être que Je devais avoir une dizaine d'années. Je sais pas trop à quel âge on commence à prendre, à avoir des formes, la poitrine. Il y a une partie de ces souvenirs-là qui ont été complètement... Je n'arrive pas à situer ce truc-là dans le temps, ni dans la durée. Je sais pas combien de temps ça a duré, je sais pas à quel moment. Mais... Et je sais même, je crois que je ne me souviens pas vraiment de la première fois non plus. C'est juste que Ça s'est mis en place. Je suis même pas sûre de savoir comment. Mais après coup, je pourrais dire que mon grand-père aimait les femmes. Et que du coup, bah, on était 12 petits-enfants dans la famille. Il avait des gestes déplacés envers beaucoup de femmes. Les femmes de mes oncles, parfois, ils venaient pour leur dire bonjour, leur faire la bise et leur faire un câlin. Puis tout d'un coup, on retrouvait sa main sur un petit bout de la poitrine de la femme de mon oncle. Il avait ce petit côté très tactile avec les femmes, dont tout le monde s'amusait un peu en disant... Oui, bon, bah, le papy, il est un petit peu tactile, il est un peu touchy, voilà, il fait des... Sauf qu'on nous a aussi, nous, beaucoup appris, en tout cas, je pense que c'est un peu culturel et aussi principalement l'éducation dans la famille, etc. On respecte énormément nos aînés. On ne dit pas notre désaccord vis-à-vis de nos aînés, on ne lève pas la voix, on n'insulte pas, enfin... Dès qu'il s'agit de nos aînés, il y a plein de filtres qui se mettent en place et il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Et en fait, il avait une posture où j'aurais pas pu, moi, m'opposer. Il m'appelait des fois en me disant « Est-ce que tu peux aller me chercher un verre d'eau ?» Puis j'allais chercher le verre d'eau, je le posais sur la table et puis là, on me chopait le bras et j'échappais plus à grand-chose. Et en même temps, je pouvais pas dire devant les autres « Non, je vais pas te chercher un verre d'eau, et si tu le veux, va le chercher. » Comme sa chambre était à l'étage, c'était plus facile pour moi de faire les allers-retours. Et en plus, ma chambre était à côté de la sienne. Et par moments, en plus, ça arrivait que ma mère et ma grand-mère soient dans le salon en bas à discuter, et moi juste au-dessus, dans la chambre, juste au-dessus du salon. Et j'ai mis du temps à me rendre compte déjà que c'était grave. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, je savais que c'était pas normal, et en même temps je me sentais complètement paralysée, je n'arrivais pas à m'opposer à ça. Et en fait, en allant en Allemagne pour leur rendre visite, on est allé donc chez mon oncle qui a 3 filles lui. Un soir on papotait un peu, et un soir il y en a une d'elles qui me dit « Toi aussi, tu passes à la casserole ?» Je dis « Comment ça, toi aussi, quelle casserole ? De quoi tu parles ?» Je commençais à avoir le cœur qui bat vite, de quoi elle me parle. Mince, je trouvais ça stressant et en même temps, j'espérais qu'elle vive la même chose que moi. Comme un soulagement de « Si on est ensemble plusieurs dans le même truc, il y a peut-être moyen qu'on réussisse à... » Et donc du coup, elle m'explique qu'en fait, oui, tout le monde passe à la casserole, qu'en fait, toutes les cousines y passent. Celles qui sont en âge, en tout cas, d'être suffisamment plaisantes, pas les toutes petites, celles qui avaient 6-7 ans, elles n'ont pas connu ça, tant mieux pour elles. Et le fait qu'elles soient 3, elles s'étaient déjà liées, toutes les 3. Et en fait, moi, j'arrive toute seule, plus timide. Il y en a une des 3 qui était un peu un petit garçon manqué, un peu énervé. Et elle me dit, il faut qu'on mette en place des stratégies. À chaque fois qu'il te demande un verre d'eau ou un truc, tu le poses et tu te barres en courant en ricanant. Pour que lui le prenne pas mal et qu'il pense que t'es en train de jouer. Comme ça, nous, on n'a pas besoin de... Et en fait, on ne se déplaçait plus déjà seul dans la maison. Dès qu'il nous demandait un truc, on y allait à 2. Comme ça, il y en avait toujours une pour tirer sur le bras de l'autre. Et lui passait son temps à dire « Mais qu'est-ce qu'elles ont, les gamines ? Elles sont là ricanées en permanence. C'est quoi vos jeux que vous faites ?» Nous, on partait sur « On est débiles, on ne comprend rien, on ricane comme des écervelés. » Sauf que ça nous permettait d'échapper à ce truc-là. Et en fait, par le biais d'elle, j'ai réussi à m'opposer par des petites stratégies et puis finalement par m'opposer complètement à ça. Et je crois que c'est le seul truc auquel j'ai pensé et je suis pas certaine d'avoir ressenti ça après. Où je me suis dit, mais en fait, on est un clan, il faut qu'on se protège entre nous. Et on passait des nuits et des nuits à en parler, des nuits à faire résilience en fait, à sortir le truc et à trouver des moyens d'y échapper, des moyens de s'en sortir, etc. Et en fait, aujourd'hui, il y en a pas une de nous. Dans les 12 cousines que nous sommes, on se fréquente pas, on se parle pas, et rien que pour ça, ça me peine. J'aurais voulu leur dire à elles à un moment donné, peu importe en fait, qu'on n'ait rien à voir dans nos vies, que ce soit en termes de valeurs, d'idéaux, etc. Mais à ce moment-là, elles m'ont sauvé moi. Et quand ma mère est venue me voir en me disant, j'ai entendu dire que certaines des filles de la famille avaient subi des choses, je voulais savoir si tu avais des choses à me dire. Je lui ai dit, écoute, oui, effectivement, ça s'est passé. Et en fait, son premier réflexe, alors, comme quoi la théorie et la pratique, c'est jamais évident de rallier les deux et d'être cohérent dans les deux. Elle a été en colère contre moi de pas, par le biais de mon éducation féministe et par l'éducation qu'elle m'avait donnée, où on a une relation très fusionnelle et très proche et très, on se parlait de tout. Mais c'était très compliqué pour moi de dire, écoute, maman, c'est ton papa. Toi, t'as peut-être rien subi, etc., et tant mieux pour toi. Mais il s'avère que oui, il a déjà se déplacé, puis déjà se déplacé dans ta propre maison, vers ta propre fille. J'avais pas envie de la voir souffrir, j'avais pas envie de la voir déçue ou désillusionnée, ou... Elle a subi beaucoup de choses dans sa vie, je pensais lui épargner, en fait, quelque chose. Vu qu'en plus, on en avait parlé avec les filles, et que finalement, on avait réglé notre problème, quelque part. Et elle a eu du mal à comprendre que bah, 12 ans ou 10 ans ou 14 ans, c'est compliqué de s'opposer à une figure si imposante. Alors mon grand-père fait 2m10, faisait 2m10. Il faisait peut-être autant de largeur. Non, pas autant de largeur, mais il était très imposant. Après, c'était pas quelqu'un de méchant, de foncièrement méchant ou de violent particulièrement. Et si je devais pas le haïr, je le trouverais sympathique. La plupart des gens le trouvaient sympathique. Et je pense qu'au fond, c'était quelqu'un de sympathique. C'était pas une mauvaise personne. C'était juste quelqu'un de malade ou à qui on n'avait jamais dit que ça se faisait pas. Aussi, il avait pas eu beaucoup d'éducation. Il s'est fait tout seul. Et puis, il y a certains contextes plus propices à ce genre de choses, ou en tout cas plus propices au silence des femmes vis-à-vis de ce genre de choses. Et je sais pas, je pense que ça a été le début d'un enchaînement de plein de trucs, où j'ai eu moins l'impression d'avoir réglé ce problème-là, que finalement avoir été un peu abusée, bon voilà, j'en suis sortie, ça va, bon... Et en fait, je me rends compte à quel point ça a dû, tout doucement, en toile de fond, impacter mes choix de vie, notamment dans mes relations intimes, dans mon rapport au corps. J'avais tendance à prêter mon corps comme un bien commun. Je me voyais d'ailleurs dans mes relations intimes, souvent de l'extérieur. Je me voyais faire, que je prenne plaisir ou pas, c'était pas vraiment important. Il fallait que je sois convenable. Si mon corps était satisfaisant, on m'aimerait, on me garderait. Et pendant longtemps, jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait même, un rapport vraiment très distancié vis-à-vis de mon corps et de mon plaisir. Mais je me rends compte aujourd'hui dans ma relation avec la jeune femme qui partage ma vie, que j'y arrive pas, en fait. J'y arrive plus à connecter les deux. Et je suis énervée. Je suis en permanence énervée. Énervée de pas y arriver. Énervée de pas pouvoir prendre mon pied. Énervée de pas me permettre, en fait, d'avoir cette jouissance. Et qu'en fait, je suis bloquée. Parce que finalement, la première fois que ce genre de sentiment ou d'émotion ou de sensation se sont révélés dans mon corps, et bah, c'est pas moi qui l'avais vraiment choisi, ou c'est pas la personne que j'avais choisie, et j'avais même pas choisi en fait. Quand le corps est un corps d'adolescent, et qu'il ait touché, qu'il ait effleuré, qu'il ait embrassé, qu'il ait léché ou pénétré, etc., par quelqu'un en plus en qui on a une entière confiance et qu'on suppose que, bon, bah, s'il n'y a pas de papa, il y a au moins une figure masculine importante et imposante qui peut peut-être faire combler quelque chose. Et qui en plus, alors c'est un peu bizarre de dire ça, et mon grand-père m'aimait beaucoup, vraiment. Pas au-delà de cet aspect-là, je devais être un peu dans les favorites, en vrai. Donc même ses gestes étaient tendres, finalement. Sauf que, bah, du coup, le corps d'une adolescente réagit, malgré tout. Du coup, il y a cette culpabilité d'avoir des choses qui se passent alors qu'on ne l'a pas choisi, alors que c'est mal, alors que... Je me rends compte aujourd'hui que je suis tiraillée entre ma rage de la jante masculine, parce que c'est plus facile de tous les haïr que d'en haïr quelques-uns, mais une rage vraiment profonde. Et en même temps, j'ai envie de réussir à pardonner et j'ai envie de réussir à avancer. Et j'ai eu envie pendant toutes ces années. Alors je suis ravie aujourd'hui de partager ma vie avec une femme, mais jusqu'à elle, j'ai passé mon temps à essayer de leur plaire quand même. Je voulais une relation, je voulais être avec quelqu'un, j'avais envie d'une relation saine avec un homme, et ça me paraissait faisable, ça me paraissait pas insurmontable en fait. Aujourd'hui, je m'entoure d'hommes pour qui j'ai du respect, de l'estime, qui sont de bonnes personnes, me semble-t-il. Mais ils sont hommes malgré tout. Et je suis parfois pas super tendre avec eux. Et là, je m'entends faire une différence, nous, eux. Et ben, de réussir à leur... Enfin, être agressive vis-à-vis de ces hommes-là et de ne pas réussir à m'opposer ou à sortir, que ce soit du grand-père, que ce soit du compagnon, que ce soit des gens à qui t'as dit non un soir, qui dorment dans le même appart que toi, qui se frottent un peu plus que prévu, ou des copains qui sous... un peu bourré, qui a envie de t'embrasser alors qu'en fait vous avez toujours été amis, des mots de trop, des phrases de trop, même au boulot, même d'avoir l'impression d'être en permanence utilisé comme, même pour crâner, genre habille-toi comme ça parce que là on sort avec mes potes, ouais bah si tu t'habilles comme ça, t'es ma meuf, faut que tu sois habillée comme ça, ou ça fait bien, un truc un peu plus... Non mais t'es sérieuse, tu vas t'habiller comme ça, tu peux pas nous mettre une petite jupe, une petite robe, un petit truc, et les rouges à lèvres, et puis ceci, puis les chaussures de meuf, non mais là tu fais mec, non mais là t'as l'air d'une pouilleuse, tu t'es pris pour une babosse, des trucs qui... Je me dis, quand tu commences à réfléchir vraiment, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai... Je pense que par protection aussi, il y a un espèce de truc de... On oublie. Parce que si tu commences à conscientiser tout ça, moi j'ai passé 30 ans à taire tout ça. Je suis à une étape encore en process, quoi. Il faut que je règle quelque chose et que je fasse, en fait, je voudrais idéalement faire la paix avec l'autre moitié de l'humanité. J'ai vraiment des accès de violence, enfin des accès, j'ai envie, en fait. Si je me contrôlais pas par peur de finir en tôle ou qu'on... J'ai envie de me balader avec une paire de ciseaux et de leur couper les couilles à chacun d'entre eux, en fait. Et je trouve ça horrible pour moi, en fait. Si j'étais apaisée, j'aurais probablement pas d'ulcère. Je serais probablement plus en paix avec moi-même et je... Mais je trouve ça fou qu'on en arrive à ressentir des choses comme ça en... Moi, en plus, moi qui aime profondément les êtres humains, j'arrive pas à passer de l'autre côté, entièrement, dans un espèce de rejet total de « ok, bon bah là j'ai une vie avec une femme, je me conçois de me projeter avec cette femme ou avec une autre femme d'ailleurs. J'ai des amis hommes et juste comme ça, ça me suffit. Je veux faire des choses entre femmes, pour les femmes. Je sais pas, j'arrive pas à basculer dans le tout féminin, plus ou moins. Et en même temps, quand je les vois, quand je croise même un pauvre inconnu dans la rue, je serre les dents. Je serre les dents, ouais.
Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Nous avons écouté aujourd'hui le Verger au complet, épisode 2 de la convergence des luttes anticapitalistes, que vous pouvez trouver comme sur le site de la CLAC, donc www.clac.net. Nous avons écouté en second lieu un extrait du disque « Terre de feu » de Jeff Clack, de la revue Jeff Clack, intitulé, l'extrait est intitulé « Pour ne plus taire les jours aux paroles à voix nue et ses résonances » par Aude Rabillon. C'est ce qui complète l'émission pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec nous et revenez-nous la semaine prochaine pour l'émission de financement de CKUT enregistrée avec le collectif Mashkasi. Le collectif Inou, collectif de résistance Mashkasi.
Suwannee Peril Popolo and Innovation en Concert present a night of great African-American composers. Montreal-based Les Angles Mortes is an ensemble directed by Julie Richard that revives marginalized classical compositions by African-American women. They will perform Julia Perry's Stabat Matera, a piece originally created in 1947. Toronto-based cellist Amal Arulanandam performs Julius Eastman's piece, The Holy Presence of Joan d'Arc. In this pre-recorded piece, he plays all 10 cello parts. Experience it free on Suwannee TV at suwanneeperilpopolo.org Thursday, April 1st at 8 p.m.
Intended for all Quebecers. We must take extreme measures to curb the pandemic. Only essential services remain open. Gatherings are prohibited. It's forbidden to leave your home between 8 p.m. and 5 a.m. These efforts aim to protect our healthcare workers, seniors, and loved ones. Let's comply with the lockdown and curfew to lower the risk of contracting COVID-19, because our health is important. For more information, visit quebec.ca/confinement. A message from the Gouvernement du Québec.
CKUT's annual funding drive runs Thursday, March 18th to Sunday, March 28th. Our programmers have been working hard at home all year, and it's time to celebrate their efforts. The theme of our first ever online drive is sowing the seeds of grassroots change, and we're asking you to support independent community media. Help us reach our goal of $25,000. Go to cket.ca to donate today.
Sowing the seeds of change, seeds of change. Sowing the seeds of change, seeds of change. Sowing the seeds of change.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM, Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature